C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde, une autre émission de Ça tient la route avec Benoît Charrette, évidemment, et Alain McKenna.
Bonjour.
Mon copilote pour l'émission. Alors, évidemment, on va avoir, comme à chaque semaine, nos actualités. En entrevue cette semaine, on reçoit le président de Porsche Canada, M. Marc Wayoun, qui est là depuis janvier 2018. Donc, c'est assez récent.
Oui.
Qui va nous parler, évidemment, de ce qui s'en vient chez Porsche. Parce que là, on a pris un virage électrique avec la Taycan. Mm-hmm. On va voir où tout cela va nous mener.
Et ce n'est qu'un début, semble-t-il.
Et ce n'est qu'un début. C'est ce qu'on va essayer de savoir avec M. Wayoun. Et Alain, t'as quoi, toi, cette semaine en essai routier?
Ben, parlant de Taycan, c'est un peu long comme concept, là, mais j'ai une Mini Cooper SE, donc la version électrique de la Mini, qu'on a vu dans les salons automobiles pendant une éternité.
Oui, ben, en fait, qu'on a eu brièvement, il y a un grand nombre d'années que j'avais essayé, puis finalement, qui était jamais venu au Canada, on l'avait envoyé aux États-Unis.
Exact.
Et là, ben, finalement, on en a un modèle électrique.
C'est plus ou moins le premier modèle pour nous, mais c'est genre la quatrième génération de ce véhicule-là, donc on va l'essayer en fin d'émission.
Parfait. Puis moi, en essai routier, je vais parler du Kia Sportage cette semaine que j'ai eu à l'essai, que j'ai ramené. Alors, véhicule intéressant qui a beaucoup maturé.
Ben, j'espère. C'est un véhicule qui a beaucoup d'histoire, d'ailleurs, le Sportage, depuis son lancement au Canada.
Je me rappelle que le premier lancement de ça, c'était fait en Estrie à l'époque. Et bon,
c'était autre chose.
Ouais.
Ça avait l'air d'un Lada.
C'était, disons, t'as plus bricolé que d'autres choses, disons-le comme ça. Écoute, il y a beaucoup d'actualités, évidemment, comme à chaque semaine. Dans ce que j'ai retenu, moi, il y a Toyota qui a repris le premier rang mondial des ventes en 2020. La nouvelle est sortie hier, en fin de journée. On a terminé avec 9,53 millions d'unités vendues.
C'est quand même sous la barre des 10 millions. Là.
C'est sous la... En fait, il y a personne. Évidemment, c'est les premiers qui sont pas là. Fait qu'il y a personne qui est à 10 millions. Et ça comprend là Daihatsu et Hino. Donc, on inclut les ventes de véhicules commerciaux. Deuxième, Volkswagen, qui est à 9,31 millions de véhicules. Et c'est en troisième, on a le groupe, l'alliance Renault,
Nissan,
Renault, Nissan et Mitsubishi. Par la suite, on retrouve Hyundai, Kia, General Motors. Fait que ça, c'est le top 5.
Okay.
Ce qu'on doit voir, évidemment, tout le monde a connu une certaine baisse au niveau des ventes. Le 2020 ne sera pas...
20% de
la
de
moyenne
repli.
De l'industrie est entre 17 et 20% dépendamment des marchés. Toyota s'en est bien sorti parce que c'est 11% de baisse. Donc, par rapport à la moyenne de l'industrie, on a fait mieux. Volkswagen est à 15%. On dit que ce qui a aidé Toyota, c'est que les ventes du côté de l'Amérique du Nord ont quand même bien été par rapport à l'Europe où ça a beaucoup moins bien été.
Ouais.
Et Volkswagen, qui est plus fort en Europe, a écopé un peu plus.
Puis on parle du très grand groupe Volkswagen, j'imagine.
Oui. On parle de tout, là. Audi, Porsche, Skoda, Seat.
Ouais,
là, on met tout le monde là-dedans. Lamborghini, bon, et compagnie. Alors, donc, c'est ces deux groupes-là. Mais ça faisait 5 ans que c'est Volkswagen qui avait le haut du pavé depuis 2015. On prévoit que Toyota va peut-être encore avoir le dessus en 2021, mais là, bien malin de dire que de quoi sera fait 2021, parce que l'année commence et c'est pas terrible. Autre nouvelle qui a fait les manchettes cette semaine, le gouvernement américain, bon, on le sait, Joe Biden signe à peu près 12 décrets par jour depuis qu'il est arrivé. Là, on a de la misère à suivre.
Ben, il défait les décrets du président précédent.
Mais il a quand même signé un décret important. Il veut que le gouvernement américain passe au vert en termes de véhicules.
Ouais.
En termes de véhicules de flotte. Et ça veut dire quoi, ça? Pour vous donner une petite idée, là, le gouvernement américain a 645 000 véhicules qui appartiennent, bon, à l'armée, au service secret, la Maison Blanche, les camions de poste, les camions de livraison du gouvernement. Bref, c'est une flotte qui est immense.
Et tout ça va être électrifié.
Et, bon, pas demain matin, non, on se comprend, mais on veut aller justement vers ça. Écoutez, il y a, par exemple, 412 500 de ces véhicules-là sont des camions. Alors, il y a 272 000 camions légers, 102 000 camions intermédiaires, puis 39 000 camions lourds. Donc, c'est la majorité. Il y a 224 000 véhicules de tourisme, puis il y a 8 000 autres véhicules, comme autobus ou ambulances, qui appartiennent au gouvernement. Mais en tout, alors, imaginez une compagnie comme GM, qui vient de sortir un fourgon électrique ou d'autres constructeurs. Ouais. Même, on parlait de Lyon électrique.
Lyon, à Saint-Jérôme, oui. Bon, on peut aller plus loin. Puis même les fabricants d'autobus et aussi même Hydro-Québec,
voilà,
qui va devenir un fournisseur d'électricité propre parce que c'est, il va falloir les brancher quelque part, ces véhicules.
645 000 véhicules à brancher, ça vous fait monter une consommation d'énergie.
Exact. Ça ne sera pas branché dans les centrales au charbon.
Là. Non, c'est ça. Alors donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toute l'industrie verte parce que c'est quand même un... on bouge beaucoup de choses du côté du gouvernement américain et on y va de ce côté-là.
Mm-hmm.
Puis une dernière nouvelle, Tesla qui fait une mise à jour de sa Tesla S. C'est sorti hier,
ça
aussi.
Oui, j'ai vu les photos,
1000 chevaux, 836 kilomètres d'autonomie pour la version Plaid. La version Plaid, ça va être la version, si on veut, haute performance. Mm-hmm. On a refait un peu le carénage, mais c'est pas tellement de l'extérieur qu'il y a des changements, c'est plus à l'intérieur. Ouais. On a adapté, par exemple, un écran qui est semblable au modèle 3, d'un écran plutôt en forme carrée plutôt qu'en forme...
Et moins verticale, exactement.
Voilà, exactement. Mm-hmm. C'est sur le large au lieu d'être sur le long, là, pour donner l'idée. On montre un véhicule avec un volant carré, le genre jeu vidéo.
Ouais, c'est le K2000 à l'époque, dans les années 80. Là.
Oui, oui, oh, la référence.
Ben,
oui,
tu sais, on n'est pas loin.
Sauf que j'ai de sérieux doutes sur la faisabilité au terme de modèle de production avec ça, parce que moi, je vois des issues.
Il y a des questions de sécurité, non, définitivement.
Oui, c'est clair.
C'est une volonté de dire, bientôt, il n'y en aura plus de volant chez Tesla, mais on n'est pas rendu là.
On n'est même pas proche. Mais bon, le coup d'œil est spectaculaire, disons-le.
C'est très vrai.
Les prix ont été annoncés en dollars américains, évidemment, parce qu'on n'a pas encore de prix canadien. C'est 80 000 $ pour le modèle de base, 120 000 $ pour le modèle qui va avoir une autonomie de 627 km. Il faut le dire, le modèle de base, une économie de 663 km. Et le Plaid, qui va être, lui, à 139 000 $ américains, annonce 837 km. C'est pas de la tarte, ça, monsieur.
Ça reste une marque de luxe, non?
Ça reste... Oui. On s'entend, là, on n'est pas... Mais quand même, je pense que l'idée derrière ça, c'est de faire de la concurrence à la Taycan chez Porsche, de faire la concurrence à des modèles comme la Audi e-tron GT qui s'en vient, la Mercedes EQS et d'autres marchands de véhicules de luxe qui vont arriver dans le
traîneau. C'est une stratégie qu'on voit beaucoup dans la techno. Par exemple, Apple le fait beaucoup. On vend les modèles où on présente les nouveaux modèles les plus intéressant en termes de revenus pour le constructeur en premier, puis après on décline des versions plus abordables. C'est pas un phénomène rare. Non plus
c'est une vieille théorie, effectivement. Toi, de ton côté, qu'est-ce que t'as, Alain?
Ben écoute, tant qu'à parler de voitures électriques, c'est drôle parce que je regardais je m'informais sur l'état de la situation. Un publicitaire pour le Super Bowl qui s'en vient dimanche prochain. Je me disais, tu sais, 80% des gens qui regardent le Super Bowl à la télé le font pour les publicités, semble-t-il. En tout cas, il y a une statistique assez démesurée par rapport à ça. Et souvent, les fabricants d'automobiles sont parmi les plus gros annonceurs dans cet événement-là. Je cherchais des tendances pour le fun. Puis, écoute, cette année, imagine-toi là qu'on va parler beaucoup de véhicules électriques pendant le Super Bowl.
Oui.
Il va y avoir des publicités. Alors, moi, c'est une actualité, mais c'est aussi un jeu, si vous voulez. Si vous demandez, tu sais, si vous regardez le football, puis ça vous intéresse moins, mais vous regardez le Super Bowl parce que vous voulez voir la pub, sortez votre carte de bingo. Et chacune des cases, là, mettez une marque de constructeur automobile. Et quand un véhicule électrique est présenté dans une pub d'un de ces constructeurs-là, cochez la case. Et vous verrez qui va gagner parce que c'est sûr que ça va être le thème dominant dans la publicité au Super Bowl. General Motors a déjà annoncé cette semaine qu'il allait avoir deux publicités de véhicules électriques. Ils vont présenter le Cadillac Lyriq, qui est le VUS électrique qui s'en vient. Il va y avoir un autre modèle dont on n'a pas voulu parler. D'abord, on va garder la surprise pour l'événement qui est dimanche prochain, le 7 février. Mais je mettrai un petit 2 $ sur le Bolt EUV de Chevrolet.
Ça serait logique.
Parce qu'on sait déjà, chez Buick et chez GMC, on a dit non, nous, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de publicité, rien. Donc, il va y avoir deux annonces de produits comme ça. Et il y a aussi le groupe, le corporatif, l'entreprise General Motors Inc. qui va faire une publicité de corporative justement, pour présenter sa stratégie électrique.
Ouais.
Une publicité de 60 secondes, ça doit coûter une fortune. Les billets coûtent comme 300 000 $ fait que ça risque d'être assez...
Non, c'est fourrette. Ben, en fait, tu as Volvo qui a doublé la mise aussi. Volvo, s'il y a un toucher de sûreté, parce qu'en anglais, on dit ça comme un toucher de sûreté.
Un safety.
Safety. Ouais. Et Volvo est toujours axé sur la sécurité.
Exact.
Safety. Alors, s'il y a un toucher de sûreté durant le match... On va faire tirer l'équivalent de 2 millions de $ en véhicules. Évidemment, ça s'adresse aux résidents des États-Unis de 18 ans et plus qui ont un permis de conduire valide. Mais on peut déjà, si vous êtes un citoyen américain, aller sur le site. Il y a un site où on peut aller construire sa Volvo.
Ah oui, pour le concours.
Et si, effectivement, parce que il devra y avoir un toucher de sûreté, ça c'est quand on a le ballon dans sa zone, là, pour ceux qui connaissent moins le football, et qu'on est bloqué dans sa zone, c'est 2 points mm-hmm. à ce moment-là. Mais c'est rare. On dit que ça fait 20, dans les 24 derniers Super Bowl, il n'y en a pas eu. Là.
Alors, ah bon? C'est pas un
événement qui se passe très souvent. Mais l'année passée, on avait mis 1 million sur la table pour la même chose chez Volvo. Il n'y a pas eu de toucher de sûreté, là, on double la mise.
Ah,
alors, ça, c'est un des événements qu'il va y avoir aussi.
Mais t'as su. J'ai l'impression que l'année passée, il y avait Porsche et Audi ont annoncé des véhicules électriques. J'ai l'impression que cette année, on risque de voir Nissan, Hyundai, avec des produits qui sont toujours présents au Super Bowl. Peut-être qu'on va voir l'Ariya, qu'on attend avec une certaine impatience.
Attend, effectivement.
Peut-être chez Hyundai, il y a l'Ioniq 5, je sais pas.
Ben, on est là. C'est, en tout cas, les paris sont ouverts. On va regarder ça le jour du Super Bowl.
Sortez votre carte de bingo.
Et on en reparlera. On reviendra sur le match. On va prendre une première pause rapidement et on revient avec le président de Porsche Canada, M. Marc Wayoum.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Vous êtes de retour à l'émission Ça tient la route et notre prochain invité est le président de Porsche Canada depuis janvier 2018. Il s'agit de Marc Wayoun. Bonjour, Monsieur Wayoun.
Bonjour, Benoît.
D'abord, merci d'être là. On va faire un peu comme on a fait avec d'autres constructeurs. On va parler de la pandémie, comment Porsche s'est sorti de l'année 2020 et surtout, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'année 2021. Donc, les résultats sont sortis au chapitre des ventes. Et finalement, Porsche s'en est assez bien sorti malgré la pandémie, là.
Oui, on s'en est bien sorti dans la mesure où, à la fin de l'année, on a été très satisfait de notre bilan. On a beaucoup moins perdu que la plupart des marques au Canada, en particulier les marques premium. Et surtout, vous le savez, l'année a été divisée en deux. Il y a eu le premier semestre où on a eu toutes les fermetures, les restrictions d'ouverture des centres Porsche qui nous ont quand même beaucoup impactés. Donc, on avait fini le premier semestre avec un chiffre vraiment en forte baisse, mais qui était indépendant de notre volonté. Et on a fait, je crois, et tout le monde l'a vu, le meilleur rebond de l'industrie automobile au Canada, pas seulement du luxe, mais de toutes les marques, sur le deuxième semestre, puisqu'on a fait 150% des ventes qu'on avait réalisées sur le premier semestre. Donc c'est vraiment une belle performance à mettre à l'actif du réseau qui a bien réagi, à mettre à l'actif également d'une communication qu'on a vraiment réorientée sur tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique. On a beaucoup travaillé là-dessus et ça nous a permis aussi de conserver le contact avec le client parce que c'est un contact qui jusqu'à présent était très lié à l'expérience réelle, l'expérience de conduite, les événements, le motorsport et tout ça. Malheureusement, on a dû le réorienter, mais avec beaucoup de succès et on est ravis de l'année 2020. On a ravis de nos résultats et en particulier du nouveau Taycan qui a très très bien démarré malgré un petit retard de production lié aux fermetures d'usine au mois de mars-avril, mais on a vendu plus de 800 Taycan au Canada en 2020, ce qui est vraiment une très belle performance.
Ben justement, on parle du Taycan, vous êtes chez Porsche en pleine transition énergétique, le Taycan est le premier véhicule 100% électrique de la marque, mais Porsche a affiché des ambitions de réaliser 50% de ses ventes électriques ou hybride, en fait, d'avoir 50% de ces modèles électriques ou hybrides d'ici 2025. Donc, parlez-nous un petit peu de cette stratégie, comment on va s'y prendre et c'est quoi les prochains modèles qu'on doit attendre avec une électricité partielle ou totale du côté de chez Porsche?
Alors, côté Porsche, bien sûr, on est, comme tous les constructeurs automobiles, aujourd'hui face à d'énormes changements. Et il est très clair que la réduction du CO2, et je dirais même dans la prochaine décennie, tous les constructeurs vont devoir, à plus ou moins brève échéance, devenir neutres en carbone. Donc, ça veut dire neutre en carbone, bien sûr, à la sortie, entre guillemets, du pot d'échappement. Donc, il y a plusieurs solutions pour ça, mais également neutre en carbone sur l'ensemble du cycle de production. Et Porsche n'a pas attendu qu'on soit obligé d'aller dans cette voie. Porsche a beaucoup anticipé, puisque pour nous, bien sûr, la durabilité de l'environnement sont des points très très importants de notre stratégie. On est une marque de luxe, mais en tant que marque de luxe, on est obligé vraiment de montrer l'exemple et on souhaite montrer l'exemple. Et c'est d'ailleurs, je pense, qu'attendent les clients d'une marque comme Porsche aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a commencé il y a longtemps, on a sorti notre première hybride il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est quand même vraiment, on était parmi les premiers, même je dirais les premiers avec la Panamera et le Cayenne à avoir des modèles de luxe hybrides. Et depuis l'année dernière, on a développé notre premier modèle 100% électrique que vous connaissez tous, le Taycan, qui vraiment a montré à tous nos clients et à tous ceux qui ont pu essayer la voiture qu'on était capable de combiner à la fois le respect de nos valeurs de marque, de notre philosophie, avec le respect de l'environnement, puisque cette voiture est 100% électrique, mais elle garde vraiment l'ADN de Porsche. C'est une vraie Porsche à conduire. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont tous vos confrères qui ont essayé la voiture.
Je peux le confirmer. Je peux le confirmer. Je l'ai roulé. Et effectivement, c'est une vraie Porsche.
C'est une vraie Porsche. Dès qu'on rentre dedans, dès qu'on se met au volant, on a ce feeling qui va du design au comportement, etc. Donc ça, c'est la première Porsche électrique, mais il va y en avoir d'autres. Et le deuxième qu'on prévoit de lancer maintenant, dans à peu près 3 ans, moins de 3 ans, ce sera le Macan. Donc le Macan, le SUV compact, le VUS, comme on dit ici, compact de Porsche, qui a beaucoup, beaucoup de succès au Canada sur un segment qui est très important ici, parce qu'on parle d'un segment qui fait plus de 100 000 voitures. Donc c'est vraiment un segment qui a beaucoup, beaucoup grandi au Canada. Et je dirais que le Macan, c'est la forme parfaite, c'est la taille parfaite pour avoir une Porsche à la fois habitable et extrêmement dynamique. Donc le Macan va être la deuxième Porsche électrique. Il aura également une technologie d'avant-garde, au même titre que le Taycan, avec la charge rapide, l'architecture 800 volts, etc., etc. Donc ça, on attend avec impatience. Et bien, il y en aura d'autres après. On a travaillé sur d'autres idées. Maintenant, il n'y a rien qui est encore complètement décidé. Mais on a, par exemple, testé un Boxster électrique en 2011, qui a vraiment donné beaucoup de satisfaction parce que le centre de gravité est très bas, la voiture est compacte, donc on arrive à obtenir vraiment des qualités routières et un plaisir de conduire à la hauteur de ce qu'on souhaite d'une Porsche. Donc ça peut être un jour, mais pour l'instant, je dirais que notre stratégie, c'est l'hybridation pour Panamera et Cayenne, le 100% électrique pour Taycan et bientôt Macan, et pour nos voitures, je dirais, traditionnelles de Porsche sportives, on va essayer le plus possible, le plus longtemps possible, de garder des moteurs thermiques. Mais bon, vous savez très bien comme moi que un jour, on sera certainement obligé de passer soit à l'hybride, soit à l'électrique. Et ce jour-là, je vous assure qu'on travaille dur pour être prêt.
Ça, j'ai deux questions par rapport à ça. Puis la première est assez simple. En fait, il y a une volonté, évidemment, de réduire le prix des composants des groupes électriques pour rendre les véhicules plus abordables. Est-ce que c'est une occasion pour Porsche de se rapprocher du milieu de gamme ou de faire des véhicules un peu plus accessibles pour élargir son audience? Si vous restez toujours à un niveau, vous voulez toujours garder cette espèce d'aura de marque de luxe et plus sportive par rapport à d'autres marques là, qui sont des marques de luxe aussi, mais peut-être un peu moins axées sur cette espèce de notion de plaisir de conduire, là?
Aujourd'hui, on a un positionnement, c'est vrai, qui démarre à environ 60 000 dollars au Canada avec le Macan, un tout petit peu plus sur le 718. On n'a pas de plan pour démarrer avec un modèle plus accessible dans l'immédiat et dans, je dirais, moyen terme. Bon, je ne peux pas vous parler du très long terme, mais ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est qu'on veut garder ce positionnement quand même d'une marque exclusive, d'une marque sportive, et d'une marque positionnée sur l'univers quand même du haut de gamme et du luxe, c'est vrai. Il n'y a pas de volonté de descendre pour l'instant en dessous. Vous savez, on est dans un groupe où d'autres marques ont des positionnements différents. Nous, c'est clairement un positionnement qui correspond à notre ADN et qu'on veut conserver.
Ouais. Évidemment, les gens qui achètent des véhicules Porsche les gardent plus longtemps, j'ai l'impression, parce que de mémoire, il y a une statistique qui je me rappelle plus exactement du chiffre, mais il y a la plupart des véhicules Porsche vendus, c'est 20, 30 dernières années, sont encore sur la route, quelque chose comme ça. Avec une transition qui s'en vient vers, notamment ici, là, où il n'y aura plus de moteur à essence vendu dans une dizaine d'années environ, les gens qui gardent une voiture de collection Porsche, est-ce qu'ils vont pouvoir, à un moment donné, soit faire une conversion ou garder leur moteur thermique et quand même avoir certains soutiens du constructeur? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous envisagez un avenir par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'il y a déjà des plans en place pour peut-être aider les gens qui ont des voitures qui sont pratiquement rendues des voitures de collection à ce stade-ci?
Bien sûr. Bon, alors bien sûr, il faut différencier, je dirais, les voitures neuves déjà, des voitures d'occasion d'une part, et d'autre part des voitures classiques. Les voitures neuves, il est clair que dans quelques années, on va s'orienter très probablement, je dis bien très probablement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne parle que de l'électrique, mais on sait qu'il y a d'autres solutions, en particulier les carburants de synthèse, qui peuvent être très intéressants au niveau émissions de CO2, sur lesquels nous travaillons. Nous avons un projet sur ce sujet qui est très bien avancé, pour vraiment créer des carburants qui sont à 100% zéro carbone. Donc,
ah oui.
Qui consomment autant de carbone qu'ils émettent. Oui, ce sont des carburants synthétiques sur lesquels on travaille, et on pense que c'est vraiment une solution pour continuer à faire rouler le parc de voitures existants. Parce qu'il faut quand même être clair, aujourd'hui, on est quand même dans une économie où on n'a pas envie de tout jeter à la poubelle. Mmh. Surtout qu'on a, nous, en l'occurrence, on fait des voitures qui deviennent des classiques, qui rentrent en collection, et je pense pas que demain, ces voitures-là ne pourront plus rouler. Il y a quand même un consensus à peu près partout pour dire qu'il ne faut pas non plus, ce serait un énorme gâchis, même environnemental, de jeter à la poubelle le parc des voitures existantes qui fonctionnent aujourd'hui, par exemple, à l'essence. Mm-hmm. Il y a certainement des moyens de faire rouler ces voitures avec des carburants qui seront, alors, ils n'auront pas le même bilan carbone qu'une voiture 100% électrique, mais ils ont un bilan carbone bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, nous, on croit à ça. On pense que c'est même un moyen, par exemple, de faire rouler nos 911 à l'avenir. On pense que c'est un moyen de faire du motorsport à l'avenir, parce que tout ne peut pas être électrique. L'électrique ne s'adapte pas encore à toutes les situations. Peut-être que ça va arriver, mais ce n'est pas encore le cas. Mm-hmm. Et c'est e-carburant. On pense vraiment que ce sera une vraie solution pour faire en sorte que le parc de véhicules existants continue à rouler. Et je pense vraiment que on ne pourra pas interdire aux gens de rouler avec des voitures, et je pense qu'aucun gouvernement aujourd'hui n'a été dans cette direction, de dire aux gens non, à partir de telle date, vous ne pourrez plus rouler avec une voiture que vous avez achetée, que vous avez payée, que vous avez utilisée, qui est aujourd'hui qui a quelques années. Ça, je ne pense pas que ça va arriver, mais il y aura certainement des restrictions de circulation dans les centres-villes, et bon, ça on le voit plus en Europe peut-être qu'aux États-Unis et au Canada, pour l'instant, mais je pense que ça va venir demain. Mais moi, honnêtement, ça me dérange pas, parce que une Porsche, c'est fait pour rouler sur des belles petites routes de montagne, c'est fait pour rouler pour faire des voyages. Ouais. C'est pas forcément la voiture que vous allez prendre quand vous allez dans l'hypercentre d'une ville, ça sert pas à grand chose. Vous allez à la garer, et ensuite vous allez marcher, vous avez peut-être utilisé des transports en commun, et ça, franchement, l'avenir des villes, aujourd'hui, c'est clairement ça.
Ouais, ben l'avenir des carburants de synthèse est assez intéressant, il n'y a aucun doute.
Oui, ben en fait, il y a plusieurs dossiers, parce qu'évidemment, quand on parle de dossiers électriques, il faut aussi nommer l'hydrogène. Vous en pensez quoi, vous, de l'hydrogène, M. Wayun?
L'hydrogène, c'est une vraie solution qui reste, je pense, à l'étude, qui est assez lourde à mettre en œuvre, parce que moi, je pense vraiment qu'on va aller vers l'hydrogène pour d'abord pour tout ce qui est véhicule utilitaire, véhicule de transport lourd, où c'est plus adapté, parce que vous allez partir d'une base de logistique où vous pouvez très facilement implanter des stations hydrogène, qui sont quand même très différentes des stations
traditionnelles. Oui, plus coûteuses aussi.
Plus chères. Ouais. Beaucoup plus coûteuses. Donc, on va d'abord se diriger vers des centres logistiques. On voit aussi une possibilité intéressante sur les trains à hydrogène. Il y en a déjà qui circulent en Europe. Et donc, ça, c'est pourquoi pas. Et maintenant, on sait aussi faire des voitures à hydrogène. C'est encore un peu lourd. Mais pour l'instant, Porsche est vraiment orienté et focalisé sur les moteurs thermiques optimisés, les chaînes hybrides et des véhicules 100% électriques. Nous, on travaille pas pour l'instant sur l'hydrogène. Je pense que c'est quelque chose qui reste intéressant à long terme. Ça peut être aussi une très bonne solution, mais à condition que l'hydrogène qui soit utilisé soit un hydrogène aussi vert et qu'il ne soit pas issu de moyens de transformation qui consomment du CO2 ou qui produisent du CO2. Ouais.
Ben écoutez, un grand merci pour votre temps ce matin, Monsieur Wayun. Je vous rappelle que Marc Wayun est président de Porsche Canada et qu'il nous parlait de l'avenir de Porsche. Alors, un grand merci à vous.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci. Alors, nous, on va rapidement une pause et on revient après avec nos essais routiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Alors, Fort intéressant cette entrevue avec Marc Wayoun, qui nous a donné en fait de l'espoir parce que on va tenter aussi longtemps que faire se peut de garder des solutions thermiques du côté des modèles, évidemment, de puristes. On a la Le 111 en tête, là, je pense que c'est le premier modèle qui vient.
Ouais.
On a essayé la Boxster électrique en 2011. Moi, je pense, et là, c'est moi qui dis ça, mais je pense qu'après la Macan, le prochain sur la liste, ça va probablement être la Boxster puis la Cayman. Puis on va peut-être avoir de l'hybridation sous une forme ou une autre dans la 911.
Ça, ben, c'est, probablement c'est que les gros impossible. Vendeurs seront les... Parce que tu sais la 911 reste leur espèce de voiture iconique, mais les accessibles, c'est le Macan, le Cayenne qui est très populaire, la Panamera qui reste rapidement électrifiée pour... Genre rencontrer, tu sais, pour se conformer aux objectifs qui sont
normes,
fixés.
Exact, aux normes environnementales, parce qu'on le sait que les normes sont de plus en plus sévères. 2025, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de constructeurs qui parlent de 2025, parce que c'est une étape importante au niveau des mesures environnementales, tant du côté de l'Europe que du côté des États-Unis. Donc, on va être, si ma mémoire est bonne, là, puis ne pas me citer sur le chiffre, mais je
pense...
Ça reste entre nous, mais je pense qu'on va être autour de 4,5 litres au 100 de moyenne de consommation pour la norme café, là, le corporate
fuel economy,
qui va être resserré. Donc, à du 4,5, là, si vous n'avez pas d'hybridation dans votre parc, ça ne va pas bien.
Il y a Mazda qui s'obstine, qui dit qu'il est capable,
mais on verra.
Mais pour les, juste pour dire, parce qu'on en a parlé, mais on n'a pas répondu, mais je ne sais pas à quel point les gens qui possèdent une voiture relativement ancienne seraient intéressés à remplacer le moteur à essence par un kit de conversion électrique, mettons éventuellement.
C'est une bonne question.
Je ne sais pas s'il y a un marché pour ça.
Un petit marché, d'après moi, mais ce que Marc Wayoun avait l'air de nous dire, c'est qu'on travaille sur des carburants alternatifs.
Oui, ça, c'est l'autre truc.
Qui permettrait probablement de garder le moteur que vous avez là, mais les émanations seraient probablement en mesure de rencontrer des normes plus sévères.
Parce qu'à part l'hydrogène, à moins de trouver une solution de capture du carbone dans la production d'hydrogène à partir de gaz naturel plus loin dans la chaîne, on n'est pas rendu.
On n'a pas fouillé dans les détails, effectivement, mais j'ai bien hâte de voir. À suivre. Ah, cela dit, si vous voulez nous écouter, vous avez manqué l'entrevue de Marc Wayoun. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez aller sur le site du 98.5 dans la section balado. Et le balado est là. À peu près tous les vendredis, on installe le balado. Vous pouvez nous écouter en onde. L'émission passe en onde. Le samedi maintenant, prenez bien note, on était le dimanche avant. C'est le samedi. Les balados seront entre 4 et 6, je pense.
Avant le
hockey, c'est
un bon samedi après-midi.
Ah oui, ça fait un bon samedi après-midi. Vous pouvez aussi nous écouter sur vos plateformes préférées, Spotify, Apple, Google. Et en passant, si vous avez des questions, il y en a. On en prend. On n'a pas beaucoup le temps d'en passer, mais on va faire un effort.
On répond sur les réseaux. À un donné.
On répond sur nos réseaux assez souvent. Vous faites balado avec un S à 98.5fm.ca et vous pouvez nous poser des questions ou aller sur la page Facebook d'Alain, la mienne, les miennes. J'en ai deux ou trois là sur l'annuelle de l'automobile, annuelauto.ca. Bon, il y a plein d'endroits où vous pouvez prendre de l'information pour l'émission. Cela dit, c'est la portion essai routier. Alain,
exact.
Tu as dit en début d'émission que tu avais fait l'essai d'une Mini SE, Mini Cooper SE.
Oui. Ben, les gens qui s'intéressent de près à l'automobile ont vu depuis quelques années le concept Mini électrique avec un C, parce que c'est en anglais, qui était la Cooper électrique essentiellement, qui a été présentée de plein de façons, mais qu'on n'a pas vu en personne sur la route souvent. Qui finalement vient d'arriver au Canada, j'imagine, en très petite quantité, parce que je n'en ai pas vu une tonne non plus. Et qui, écoute, premièrement, la marque Mini, on sait, elle a une certaine aura auprès d'une certaine clientèle. Et c'est un format qui s'électrifie en principe très facilement. C'est une sous-compacte, dans ce cas-ci, à trois portes, donc une petite hatchback, comme on dit.
Exact.
Et qui, donc, ne demande pas nécessairement une grosse quincaillerie. Donc, on se dit, ben, mon Dieu, mais c'est la combinaison idéale. Alors, on l'a oublié on l'a essayé. Et j'avais en tête une chose, c'est de voir si on pouvait faire oublier pour Mini l'expérience, disons, pas tout à fait réussie du Countryman hybride branchable qui était au catalogue depuis quelques années.
Qui avait surtout pas d'autonomie.
qui avait un groupe électrique ridicule. C'était tellement mal intégré que ça nuisait, à mon avis, pour les gens qui portent attention à ça. Ça nuisait à la réputation de la technologie
hybride. En fait, c'est que ça coûtait trop cher pour absolument rien.
Il n'y avait aucun moyen de contrôler. Ça affectait à peu près pas la consommation d'essence. Donc, voilà. En gros, la Cooper SE est donc une sous-compacte trois portes à roues motrices à l'avant, animée par un groupe électrique qui fait environ 170 km par charge sur papier. Donc, en théorie. Donc, quand il fait beau, quand on a le vent dans le dos, quand la route est
au mois de juillet, on descend dans le compte avec un petit vent dans le dos.
essayez donc pendant, juste au retour des fêtes, ça donne un peu plus comme 130 km par charge.
Ouais. C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Non.
Et une des raisons pour ça, c'est que sa pile est moins grosse, est beaucoup moins grosse que celle de modèles électriques d'autres marques plus performants. Elle fait 32 kWh.
Ouais, c'est pas beaucoup ça non plus.
Non seulement c'est pas beaucoup, c'est moins que celle de la BMW i3, qui est la diminutive BMW électrique.
Oui, qui est plus petite qu'une. En tout cas, c'est pas plus grand.
Plus compact,
qu'une...
Oui, exactement. C'est ça. Et qui fait 42,2 kWh. Donc, moins de batterie. En revanche, elle a un plus. Elle se recharge quand même assez rapidement. Chez Mini, on dit qu'on peut la monter à 80% de charge en 35 minutes à peine avec une borne rapide comme celle qu'on a sur le réseau électrique là, d'Hydro-Québec. Ouais. Ça donne environ 100 km de charge en une demi-heure.
Ce qui n'est pas mauvais.
Ça a bien
en
du
fait,
bon sens.
Chez Mini, moi, j'avais déjà eu la conversation avec les gens de Mini qui me disaient qu'on avait voulu conserver les caractéristiques de conduite de la Mini, bon, qui est une voiture
drôle,
joviale, qu'on aime manœuvrer.
Exactement. On a toujours dit de la Cooper que c'est un peu comme un go-kart.
C'est la façon qu'elle se comporte. C'est pas mal ce qu'il y a de plus proche d'un go-kart sur la route, effectivement.
Les roues les plus possibles dans le coin du véhicule. Ouais. Donc, ça crée une espèce de comportement routier assez amusant, assez plaisant à conduire. Je pense qu'on peut dire que la Cooper SE se comporte comme un go-kart électrique. Parce que ça existe en plus, donc on peut faire la comparaison.
Oui, effectivement.
C'est silencieux, évidemment. L'accélération est quand même assez bonne. Et un peu comme la i3, justement, on en parlait tantôt, le freinage se fait la plupart du temps sans même appuyer sur le frein parce que l'espèce de compression ralentit le véhicule et finit par doser.
Et on a même amélioré le concept. Moi, j'avais eu l'occasion d'essayer l'ancienne Mini SE il y a plusieurs années. Ironiquement, on avait attribué une au journaliste, puis l'auto est jamais venue ici.
Exact.
Mais c'était... Tu levais le pied de l'accélérateur, puis tu freinais. Ouais. Littéralement, là. C'était pas... tu ralentis, là. C'était les premiers...
C'était lourd, ben oui. Ben, ils l'ont fait un peu...
La première fois que tu retires le pied de l'accélérateur, tu dis...
C'était même un défaut de la première génération de BMW i3. Ils se sont rendus compte que finalement, c'était une qualité parce qu'on finit par s'habituer et on finit par l'adapter et on freine et on n'a même pas touché au frein.
Faut moduler un peu, là, mais effectivement. C'est... quand on dit conduire à une pédale, là, c'est ça, là.
Exactement. Bon. Bon, évidemment, quand on dit un go-kart, on dit même suspension qu'un go-kart. Ça, ce n'est pas une qualité, mesdames, messieurs.
Non.
Pas sur nos routes. En tout cas, la suspension travaille très fort pour soutenir le poids du véhicule. Donc, ça paraît, ça tape dur sur les routes cabossées qu'on connaît, qu'elles soient grandes ou petites, les routes là en ville ou sur l'autoroute ou peu importe. C'est probablement le principal défaut au niveau du comportement du véhicule. Qui est d'ailleurs très petit, donc l'autre défaut, c'est que l'habitacle n'est pas super spacieux non plus. Personnellement, j'ai aucune idée comment on peut asseoir un adulte à l'arrière de ce véhicule-là. Il y a pas comme 20 cm entre le siège et la banquette.
Il va s'asseoir en mettant les pieds sur le siège.
La seule solution que j'ai trouvée, c'est de scier les jambes, et je trouve que c'est pas super gentil pour les passagers. Donc, j'ai laissé faire.
C'est surtout permanent comme solution.
C'est pas facile, t'as raison. Donc, disons que c'est pas aussi familial qu'on le souhaiterait. Évidemment, ce qui est le fun, c'est qu'à l'avant, c'est plutôt confortable. Donc, on est assis au volant,
C'est un véhicule de ville pour un couple sans enfants ou célibataire.
Ben, j'allais dire ça, ou un deuxième véhicule pour des gens en banlieue qui cherchent une voiture électrique.
Pour aller travailler.
Mais à 43 000 $ pour le modèle de base, ça monte à 50 000 quand on l'équipe un peu. Là, on enlève les rabais, tout ça. Ça reste quand même assez cher pour un deuxième véhicule.
Ben, c'est parce qu'on peut avoir à ce prix-là un véhicule électrique qui va vous donner 400 km d'autonomie.
Exactement.
Ça commence à être dur à justifier.
Et même 250, tu sais, une Nissan Leaf de base.
36 000, une Nissan Leaf de base cher, avec la petite batterie.
Exactement.
Donc,
il y a l'Aura Mini qui est le seul différenciateur. Ouais. Donc, si vous aimez ce genre de véhicule, si vous avez toujours eu une Mini Cooper et vous rêvez de l'électrifier, ça se fait, ça coûte cher.
Une électrique drôle à conduire, vous allez payer pour, puis vous n'aurez pas autant de kilométrage en termes d'autonomie. Mais oui, peut-être. Mais prenez en compte que les rues de Montréal vont se ressentir lourdement sur votre colonne vertébrale.
Ça demande... Il y a des frais de chiro à ajouter, fait que t'as raison. Il n'y a pas d'aide du gouvernement pour ça. Pas lié à l'achat d'une voiture, mais... effectivement. J'avoue qu'une Mini Cooper SE à 250 km d'autonomie aurait été autrement plus recommandable.
250-300, faudrait être là.
Attendons la suite. Évidemment, Mini, comme BMW, qui est la maison mère, comme tous les groupes...
On travaille sur beaucoup de projets chez BMW.
Comme Monsieur Wayoun l'a dit tout à l'heure pour Porsche, ils ont des objectifs dans 5 ans d'électrifier un nombre importants de véhicules et tu leur demandes quand s'en vient le prochain produit. Tu dis, ben, ça arrive dans 3 ans, ce qui nous mène à peu près à la veille de leur promesse. Donc, je pense qu'il y a un jeu, là. Faut être patient.
En fait, tout le monde est là-dedans. Puis tout le monde se demande en ce moment comment on va faire pour demeurer rentable en vendant des produits électriques qui sont beaucoup plus chers. Alors, quand on aura trouvé une solution, on va commencer à en sortir un petit peu
plus. Les marques de luxe devraient être senties, mais en tout cas, bref, à suivre.
C'est ça. Absolument. Moi, de mon côté, je suis allé dans quelque chose d'un peu plus terre à terre. Kia Sportage. En fait, c'est un modèle qui existe depuis nombre d'années.
Terre à terre, tu
dis. Oui.
Tout à fait.
C'est tout à fait terre à terre.
Oh oui, non, mais plus terre à terre que ça, t'es carrément.
Puis le modèle, en fait, le 2021 a pas grand chose de particulier. Il a changé l'année passée, le modèle. Donc, c'est pas de grandes nouveautés. On prévoit quelques changements l'an prochain pour 2022. On dit qu'il y a une version hybride qui s'en vient dans un format un petit peu plus généreux.
Branchable aussi, non?
Oui, c'est ça, hybride branchable. Ah, oui, okay. En fait, c'est qu'on veut, parce que là, avec l'arrivée du Seltos, là, on veut un petit peu distancer, creuser le fossé entre les modèles. Fait que là, le Sportage, là, on a agrandi le Sorento. Fait qu'on va probablement agrandir un petit peu le Sportage, puis on va laisser la place de base au Seltos. Mm-hmm. Donc, faut s'attendre à ça l'an prochain. Cela dit, c'est bien aménagé. La beauté des produits qu'il y a, comme des produits Hyundai, les Coréens ont toujours beaucoup d'équipements pour le prix. Ouais. Des choses qu'on va avoir, par exemple, en option dans d'autres compagnies, comme bon Apple CarPlay, Android Auto. On a du
sans fil
ouais. Qu'on doit payer dans chez bien des gens. L'utilisation du système OVO est convivial.
Ça, c'est l'interface multimédia.
Ça va bien. C'est pas compliqué à utiliser. Il y a beaucoup aussi d'aide à la conduite électronique. Vous avez là de base, régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de collision frontale, détection de piétons, freinage d'urgence automatique, feu de croisement automatique, phare anti-brouillard, rétroviseur chauffant. Donc, vous avez quand même pas mal de choses qui viennent avec. Et le modèle EX que j'avais en essai ajoute un volant chauffant, sélecteur de rapport gainé de cuir,
okay.
Des recharges sans fil, t'en parlais tantôt pour appareils cellulaires.
Mais je vais dire un truc, la chose à considérer au Québec, ben surtout en ce moment-ci de l'année, c'est le volant chauffant.
C'est très pratique. Là, on n'a pas eu un hiver particulièrement rigoureux, là, soyons honnêtes. Il a fait froid 3-4 jours, là. Mais les matins froids, là, quand tu pars.
Non,
c'est pas fini. On annonce moins 10, moins 12 là, pour la fin de semaine. On devrait être à peu près là. Le bloc d'instrumentation est en partie numérique. Donc ça, c'est intéressant. On a quand même beaucoup. Si vous voulez le cuir, ben faut aller dans le SX. Le SX, là, on est plus haut. Le moteur, en fait, vous avez deux moteurs. Les moteurs pour les versions d'entrée de gamme, c'est un 2.4 litres de 181 chevaux, 175 livres pieds de couple. Et dans le modèle SX, vous avez un 2 litres turbo de 237 chevaux et 260 livres pieds de couple, qui est un moteur intéressant, mais cela dit, je n'ai rien à dire contre le 2.4 litres. Des fois, on dit aux gens, payez pour le moteur en option. Le 2.4 litres va très bien. Il est surtout bien reconnu. C'est pas un moteur qui a eu des problèmes du côté de chez... On a un EX avec d'autres chez Kia. Là. Il y a eu des moteurs qui ont eu des problèmes, mais celui-là, à date, va extrêmement bien. Donc, c'est pas un problème de ce côté-là. Et j'ai bien aimé le système Dynamax, qui est le système 4 roues motrices du côté de chez Kia, qui est pas tout à fait le même que Hyundai. Les gens disent... C'est pas tout à fait le même. Je trouve le système Dynamax un peu plus réactif. Plus nerveux, plus rapide à réagir. Je l'ai eu dans la neige. Je l'ai eu la semaine dernière. Donc, j'ai pu l'essayer dans des conditions où on est capable de voir de quoi est capable le système 4 roues motrices. La direction est rapide, c'est précis. Le châssis est solide. Il n'y a pas de bruit de rossignol ou de bruit insolite qui sortent de craquement au niveau du châssis. Donc, je dirais que le plaisir de conduire est intéressant. Et même dans le moteur de base, j'ai trouvé que on avait une bonne formule. Bon, les prix, ça va dépendre comment vous l'équipez, là, mais ça part autour de 27-28 000 là, pour les modèles d'entrée de gamme. Puis on va à 40 000 à peu près là, dans les modèles plus équipés. Mais c'est dans la fourchette de prix qu'on retrouve là chez les concurrents. Donc,
j'ai souvent l'impression que ce véhicule-là doit être populaire en location. C'est un des véhicules les plus abordables en principe.
Et on est assez agressif du côté de la location chez Kia. On offre des... Parce que bon, la question vient souvent. J'achète, je loue, j'achète.
Et chez Kia, comme Hyundai, on peut louer sur 7, 8, 9 ans.
Ce que je ne recommande pas, par exemple.
C'est ce que j'allais dire, parce que ça prendrait au minimum une garantie conséquente. Et ça prend aussi...
Moi, je dis aux gens, louer ou acheter pour ces véhicules-là, ça dépend toujours de l'offre que vous allez avoir.
Exact.
Quand les constructeurs ont trop de véhicules qui reviennent, parce qu'ils en ont loué beaucoup, ils vont donner l'avantage à l'achat. Mm-hmm. On va vous donner, par exemple, du 0% à l'achat sur 4 ans ou un rabais ou on va favoriser l'achat pour diminuer un peu le nombre de véhicules qui revient. Analysez ça. Si vous louez, essayez de vous en tenir à la garantie. L'avantage, c'est que chez Kia, il y a 5 ans de garantie. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez, à la limite, louer sur 5 ans, mais dépassez pas.
Ça commence à faire beaucoup, là.
Ben, 7 ans, c'est long. C'est limite. C'est parce que le problème, c'est que si vous arrivez un pépin et que la garantie ne s'applique plus, c'est vous qui êtes responsable, même si vous louez. Mm-hmm. Alors, moi, je dis toujours aux gens, tenez-vous-en au terme de la garantie. Sinon, ben, prenez une garantie prolongée. Mais organisez-vous pour avoir un terme qui est pas trop long, parce que c'est pas tout le monde qui aime son véhicule pendant 7 ans.
Ben, si vous louez pour pas avoir le casse-tête du financement, faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de casse-tête rendu une fois que la...
Exact. Moi, je vous dirais, 4 ans maximum, essayez de vous en tenir à ça. Parce que généralement, après 4 ans, là, les gens commencent à avoir des fourmis dans les jambes, ils ont hâte de changer les autos, ils prendraient bien d'autres choses. Alors, ça devient un fardeau après 4 ans. Puis là, on embarque dans ce qu'on appelle communément les ballons, parce que là, on transporte, si on n'a pas fini de payer sur le prochain véhicule, et à un moment donné, ça finit par nous coûter très cher.
C'est autrement plus important de faire l'entretien dès le jour 1 quand on loue sur long terme.
Absolument. Mmh. Mais pour revenir à nos moutons, je vous dirais que la version EX est probablement l'option la plus raisonnable du côté du sportage, tant pour le prix que pour le plaisir que l'équipement. La version EX, oui, et le SX est plus intéressante, mais est plus chère. Le moteur 2 litres est intéressant, mais comme je l'ai dit tantôt, le 2.4 litres est pas inintéressant. Il fait tout à fait le travail. On parlait de l'écran tactile qui est intéressant, de la conduite du système 4 roues motrices qui est efficace. La visibilité arrière pourrait être améliorée à cause de la fonte du véhicule. On en perd un petit peu, surtout quand un objet est assez bas. L'espace cargo est un peu plus petit que la moyenne. À cause de la forme du haillon qui est assez ronde, on perd un petit peu. Et la boîte à 6 rapports commence un petit peu à vieillir. Ça sera pas une mauvaise idée de mettre quelque chose de plus récent. Et vous entendez la musique, c'est déjà fini. Alors, Alain, merci d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
Nous, on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Je vais parler du GV80 de Genesis en essai routier.
On comparera nos notes.
Ça marche. À la semaine prochaine, tout le monde.
C'est 23.